Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une série d'articles d'Africa Press, datés du 31 mai 2025. Ils nous donnent un aperçu assez fascinant des dynamiques récentes sur le continent africain et même au-delà.
Oui, tout à fait. Au programme, on a des gros investissements portuaires, une initiative crypto assez surprenante, des changements de tête dans des institutions, des manœuvres diplomatiques.
En Afrique de l'Ouest notamment.
Oui, et aussi une vision régionaliste assez forte dans les Grands Lacs. Bref, pas mal de choses.
L'idée, c'est de décrypter un peu les points clés, les enjeux derrière tout ça. Alors commençons peut-être par le Cameroun. Le port autonome de Douala lance un projet colossal.
Exactement. On parle de 50,4 milliards de FCFA. C'est pour une nouvelle zone logistique de 25 hectares. Mais au-delà des chiffres, le but est vraiment stratégique.
C'est-à-dire ?
Il s'agit pas juste d'agrandir. L'idée, c'est de désengorger le port, surtout pour les containers vides. C'est un vrai casse-tête logistique, ça. Et puis, surtout, de tripler la capacité d'ici 2050.
Tripler, c'est énorme.
Ouais, c'est un objectif très ambitieux pour rester compétitif face aux autres ports du Golfe de Guinée qui sont très actifs. C'est vraiment un pari sur l'efficacité, quoi.
D'accord. Et l'impact local, au niveau économique, qu'est-ce qu'on en dit ?
Alors, le port autonome, le PAD, estime ça à 200 emplois directs et environ 1000 indirects, avec des revenus attendus autour de 220 milliards de FCFA sur la durée, donc c'est significatif. Enfin, si l'objectif de capacité est atteint, bien sûr.
Bon, changement de décor et d'approche économique radicale avec la Centrafrique, là on explore des voies, disons, moins classiques.
99 ans, mais sous forme de jetons numériques, c'est la fameuse tokenisation des actifs.
Tokeniser la terre, ça paraît audacieuse, surtout qu'il y a eu l'échec du projet Sango il n'y a pas si longtemps. Quels sont les points d'inquiétude ?
Ils sont nombreux. D'abord, la localisation des terres, près de Bangui, potentiellement riche en minerais. Ça fait craindre une sorte de spoliation déguisée.
D'accord.
Ensuite, la structure même du dollar SAR pose question. Apparemment, 76% des jetons seraient dans seulement 4 portefeuilles. C'est pas très transparent ni très rassurant niveau contrôle.
Effectivement.
Et puis, il y a le contexte. L'influence du groupe Wagner est connue là-bas. Du coup, certains parlent d'une sorte de crypto-fiscalité foncière. Bref, une manœuvre qui semble quand même assez risquée.
Ok. Des expérimentations nationales qui contrastent avec des enjeux plus institutionnels panafricains. Justement, il y a du nouveau à la Banque africaine de développement, l'ABAD.
Oui, un nouveau président a été élu, Sidi Ould Tah, un Mauritanien de 71 ans. C'est la première fois pour un ressortissant du Sahel, c'est à noter.
Ah oui, et son profil ?
C'est un technocrate, plutôt discret, formé en France. Il a un passé solide à la Banque islamique de développement et surtout à la BDEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il a réussi à en quadrupler le capital quand même.
Impressionnant.
Du coup, il a cette image de bâtisseur, pragmatique. Il est très attendu sur les gros dossiers. Financement des infrastructures, sécurité alimentaire et bien sûr, le climat.
D'accord. Et pendant que ces institutions bougent, la diplomatie bilatérale, elle n'est pas en reste. En Afrique de l'Ouest notamment.
Oui, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, était à Abidjan. Objectif affiché, lever les barrières commerciales et ce qu'ils appellent les tracasseries administratives entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Et ça, dans quel délai ?
Ils se sont donné 6 prochains mois. C'est assez court. Ils ont aussi parlé de sécurité régionale. C'est une visite importante, vu le contexte un peu tendu en Afrique de l'Ouest. Sonko cherche clairement à positionner le Sénégal.
Intéressant ce rapprochement bilatéral. Alors qu'au même moment, dans la région des Grands Lacs, on entend un discours un peu différent.
Oui, une approche plus axée sur la région elle-même. C'est Yoweri Museveni qui, en prenant la présidence du mécanisme de suivi régional, a plaidé très fort pour une solution africaine à la crise en RDC.
Une solution africaine,
voilà.
C'est-à-dire sans intervention extérieure.
Exactement. Il a critiqué assez vertement le recours systématique aux puissances extérieures en rappelant des exemples historiques au Congo. Son message aux voisins Rwanda, Burundi, Ouganda, etc., c'est en gros « prenez vos responsabilités, c'est vous qui connaissez le terrain ».
Cette idée de solution locale endogène. Le Gabon, lui, semble regarder ailleurs, plutôt vers l'Est, non ? En rejoignant une nouvelle organisation ?
C'est ça. Le Gabon a adhéré à l'Organisation internationale de la médiation, l'OIMED. C'est une initiative chinoise basée à Hong Kong.
Et quel est le but de cette OIMED ?
Faciliter la résolution à l'amiable des différends internationaux. Commerciaux, diplomatiques, une sorte d'alternative aux tribunaux, quoi. Basée sur la négociation. Pour Libreville, c'est vu comme un moyen de privilégier le dialogue, d'éviter des coûts judiciaires élevés et de s'intégrer dans une nouvelle structure multilatérale. Bon, certains y voient aussi un outil de soft power pour Pékin, évidemment.
Logique. Et pour finir, élargissons encore un peu la perspective. Il y a eu des échos au-delà du continent. Des propos d'un proche de Donald Trump sur l'OTAN.
Oui. Kish Kellogg, un ancien conseiller, il a évoqué la possibilité qu'une future administration Trump propose un gel de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Ça concernerait l'Ukraine, la Géorgie.
Un gel ? Et il a justifié ça comment ?
En qualifiant les préoccupations de sécurité russe de « légitimes ». Alors attention, hein, ce n'est pas une position officielle de campagne, du moins pas encore. Mais le simple fait d'évoquer ça publiquement…
Forcément, ça fait réagir.
Bah oui, c'est présenté comme une potentielle concession pragmatique, mais ça alimente tout le débat sur la stratégie occidentale face à la Russie et à la guerre en Ukraine.
Et j'imagine que les interprétations divergent radicalement.
Absolument. Ça peut être vu comme une trahison par Kiev, un recul dangereux par les pays baltes ou, peut-être pour d'autres, une voie de désescalade possible.
Bon, ce tour d'horizon rapide nous montre vraiment une Afrique en plein mouvement. Des investissements structurants, des paris financiers audacieux, des renouvellements de leadership, des repositionnements diplomatiques constants. Et tout ça connecté aux grands enjeux mondiaux.
Exactement. Et ça soulève une question de fond, je trouve. Dans quelle mesure les solutions maison qu'elles soient régionales comme le prône Museveni ou nationales comme les infrastructures portuaires ou même alternatives comme la crypto centrafricaine, dans quelle mesure ces solutions peuvent-elles vraiment s'affirmer et être efficaces face aux influences et aux cadres proposés par les grands acteurs mondiaux, qu'ils soient occidentaux ou orientaux comme avec cette OM chinoise par exemple.
Une excellente question pour poursuivre la réflexion. Merci beaucoup d'avoir exploré ces sujets avec nous aujourd'hui.